affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez toujours Transistor et c'est parti pour votre magazine de cinéma d'étoiles plein les yeux. Alors qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine ? On commencera par parler de Diamantino, un film dont on s'est toujours pas vraiment remis, mais on y reviendra, on continuera avec un coup de projecteur signé Mathilde Ellie. De quoi on parle ce soir ?
On parle du cinéma de Claire Simon en prenant comme prétexte son tout dernier film, Première Solitude, qu'on a vu la semaine dernière.
Ça sera d'ici un tout petit quart d'heure et puis on terminera avec quelques conseils de sortie. C'est donc parti, la toile, c'est Diamantino, les yeux, ce sont ceux d'Elie, Mathilde et puis Marie, je te redis bonsoir.
Rebonsoir, Rémi.
Messieurs, dames, deux minutes d'attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler des Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un grand prix au Festival de Cannes. C'est bien, non ? Diamantino, c'est moi.
Pas mal, hein ?
On m'appelait le Michel-Ange du terrain. Quand j'y jouais, il se passait des choses assez folles. Mais un jour, j'ai eu cette vision.
Qu'est-ce que c'est, juste ?
Sans refugiados, pas. Refugiados.
Bon, personne ne réussira à m'obliger à résumer ce film, est-ce seulement possible ? Enfin, je sais pas, ce qu'on peut dire. Alors, c'est un joueur de foot, Diamantino, calqué sur une idole portugaise bien connue,
voilà.
Peut-être encore plus bête que nature, qui est systématiquement touché par la grâce et voit d'un coup, quand il a la balle au pied, le terrain se transformer en nuages cotonneux sur lesquels rebondissent des chiots poilus géants. Et puis d'un coup, un jour, il voit des réfugiés sur la mer, se rend compte de toute la détresse du monde, décide d'adopter un de ces jeunes réfugiés, et puis ensuite ça part en une espèce de James Bondry complètement loufoque. Le réfugié n'en est pas un, mais on vous dira pas tout. Bref, et tout ça termine dans des torrents d'amour sur lesquels on reviendra donc. Mais d'abord, je me tourne vers vous trois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Mathilde ?
D'accord, pour commencer. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai pas su d'abord pourquoi. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi on adhère tant que ça au film ? Et je propose de partir d'une définition, qui est celle du kitsch, et qui, je pense, pourrait, dans tout ce qu'elle a de positif, finalement, résumer bien le film. Donc, globalement, on peut penser... Le kitsch fait référence d'abord au caractère esthétique d'une œuvre qui se définit par son inauthenticité, la surcharge, le cumul des matières ou des fictions, le mauvais goût et la médiocrité, ou encore quelque chose de démodé, de ridicule, de surchargé, souvent laid, selon les caractères du moment. Donc, ce que je considère être l'une des plus grandes réussites du film est de d'abord se complaire dans un kitsch absolu, quelque chose d'inauthentique, un décalage énorme qui est celui du kitsch totalement assumé. Donc on est toujours dans quelque chose de revendiqué et on y va franchement, quoi. On y adhère de façon très joyeuse. Et la grande qualité du film pour moi, c'est qu'on a cette esthétique mais qui ne nuit jamais, au contraire, à l'authenticité du personnage. On a quelque chose de complètement barré et de surfait, qui est la meilleure façon de comprendre comment le personnage survit à l'univers radicalement hostile dans lequel il évolue. Parce que globalement, le monde entier est dressé contre lui. Il est pas si bête, enfin si, il est bête, mais il est pas, il correspond pas au cliché du footballeur absolument insupportable. Globalement, il est gentil et tout ce qu'il fait est motivé par cette gentillesse là. C'est plutôt tous les éléments extérieurs qui lui sont complètement hostiles et qui le nuisent radicalement. Et ce qui est touchant dans ce personnage-là, et ce qui nous fait finalement adhérer au film, c'est qu'il est franchement, franchement sincère. Il y a quelque chose de très enfantin dans sa manière d'être touché par les choses, de pleurer, mais qui du coup l'éloigne complètement, comme je disais, du cliché du footballeur. On rejoint le kitsch aussi, parce que quand on est enfant, quand on a ce regard enfantin sur les choses, on ne se pose pas la question de savoir si ce qui est ringard ou ce qui ne l'est pas. On vit les choses pleinement et sincèrement, et c'est finalement ce qu'on peut retenir du film. Et puis finalement, on considère quand même que On peut considérer, malgré tout, la charge politique très satirique du film. On évoque beaucoup de choses, la crise au Portugal, le fait que les Portugais ont dû rembourser aux autres États européens beaucoup d'argent, la question transgenre, la question migratoire. En fait, on a des enjeux très actuels, mais traités sous le mode du kitsch, donc de ce qui est démodé. Et c'est franchement très drôle, cette confrontation des deux tonalités, le côté suranné du personnage qui est complètement largué et rattrapé malgré lui et sans s'en rendre compte par les événements, et le côté très actuel du sujet du film. Je trouve ça très fort parce que ce traitement ne nous éloigne jamais de l'urgence des enjeux, alors qu'on a un traitement très, très démodé, quoi.
Alors, Marie.
Alors, je vais... moi, j'ai pas quelque chose aussi construit que ça. Alors, je suis plutôt bon public, d'habitude, pour les films assez absurdes, et là, on est clairement en présence de ce type de film. J'ai bien aimé, mais j'aurais aimé être plus emportée par la folie du film, et ça m'a un peu déçue. Enfin, c'était pas aussi fou que ce que me promettait la bande-annonce, et ça m'a un tout petit peu déçue de ce point de vue-là. Voilà, pour donner mon avis brièvement avant qu'on en discute.
Oui, moi je te rejoins totalement sur cette déception, parce que bon, j'ai bien reçu le film, j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu disais, Mathilde, du kitsch, de la liberté, de ton, de tout ce boubi-boulga, voilà. Enfin, reste à savoir s'il est digeste, en fait. Et reste à savoir s'il va jusqu'au bout des choses. Et moi, j'ai trouvé finalement ça aurait pu aller plus loin, ça aurait pu partir totalement en vrille. Et par exemple, il y a des effets de mise à distance et toute cette voix off qui ponctue le film à chaque fois. Diamantino commente les actions de sa vie. En fait, rétrospectivement, on comprend qu'il sait ce qu'il a vécu, sauf qu'il dit déjà ce qu'il y a dans l'image, il explicite déjà ce qu'il y a dans l'image, et donc ça enlève un peu du trouble qu'il aurait pu avoir, je crois, au sein de ce montage totalement kitsch et absurde et délirant.
Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, parce que justement j'aime bien cette voix off, et qui est très efficace sur la bande-annonce, on l'a entendu, et que je trouve aussi efficace pendant le film. La grande question que je me pose face à ce film est de savoir... Est-ce que c'est voltairien ou gratuit, quoi ? Parce que effectivement, il convoque tout un tas d'enjeux qui sont très très actuels. Il les convoque d'une façon qui est clairement satirique. Et d'un autre côté, ce film, c'est un gros chiot poilu qui rebondit sur des nuages roses, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il y a quand même eu une espèce de... On convoque une espèce de film d'agent secret où on va cloner un footballeur pour prendre le pouvoir au Portugal. Enfin, je veux dire, il se passe des trucs, il y a ces sœurs horribles qui semblent tout droit sorties d'une espèce de film pour faire peur aux enfants dans les années 70. Enfin, et il convoque tout un imaginaire qui me fait penser que... Je sais pas si finalement c'est pas juste une espèce de grand geste ludique, ce truc-là, de je sais pas, à quel point on est dans la sature et à quel point on est dans le recul vis-à-vis
La saturation ou dans la satire ? T'as dit dans la sature. Je pense que t'as fait un espèce de mix.
Alors effectivement, il y a un effet de saturation qui du coup est assez génial. Mais oui, non, moi, c'est un film qui... C'est pas un film dont je dirais que c'est le plus grand film que j'aurais vu cette année, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui marche très très bien, qui a une espèce de d'innocence, de spontanéité dans le geste, ce qui n'est pas évident vu le dispositif scénaristique qui est déployé, que je trouve vraiment agréable de voir ces deux réalisateurs qui viennent, qui font un truc parce que manifestement ça les fait bien marrer et qu'ils ont envie de le faire et qu'ils ont trouvé un financeur, quoi. Et partant de là, je trouve ça intéressant. Cela dit, effectivement, il y a quelque chose de déroutant à voir tant d'objets politiques mobilisés sans réellement avoir l'impression qu'il y en ait un traitement. Alors, est-ce que ça ne nous rappelle pas juste dans leur nudité un petit peu crue ces objets politiques-là ? Est-ce que ce n'est pas finalement ce que réussit à faire le film ? Ça, je ne sais pas.
Moi, je trouve que le côté politique, justement, c'est peut-être pas le plus réussi parce que, comme tu dis, il se donne hyper explicitement. On a ce clip, un moment de parodie de clip de campagne d'extrême droite qui incite à sortir l'Union européenne. Bon, tout est surligné, surjoué et... Peut-être c'est pas là que le film touche le plus, parce que ça, on le voit comme des objets... effectivement, on s'attend à tout ça. Peut-être c'est plus à un niveau, comment dire, au niveau de l'amalgame que tu disais, au niveau du mélange des genres, au niveau du trouble qu'il instaure entre des catégories, voilà, entre différents films, les films de... très mauvais films de série B, les effets spéciaux un peu cheap, le film d'espionnage...
Surgissement du mélo, oui, quand même, hein, oui, qui mine de rien finit par prendre le pas sur le film et pas sans une certaine habileté aussi.
Oui, une certaine douceur aussi, j'ai trouvé. Ouais. À la fin, enfin, il y a...
Qui puis, surprend.
Dans les effets visuels, il prend des libertés, alors sans spoiler à la fin, il y a des jeux sur les textures et des jeux sur, sur l'image numérique qu'on trouve vraiment que dans le cinéma expérimental ou alors sur des choses qui se font sur Internet. Voilà, c'est vraiment un des premiers films que je vois qui est à ce point imprégné d'une culture... pop et d'une culture internet aussi avec le mème, voilà, les chiens, les animaux mignons de partout. C'est ça aussi, c'est, ça travaille avec cet imaginaire-là et c'est peut-être ce qui donne sa, sa cohérence un peu sous-jacente au Gloobie-Boulga, quoi.
Alors ce Gloobie-Boulga, paradoxalement, parfois j'ai trouvé quand même qu'il manquait de rythme. C'est-à-dire que d'un côté c'est très effréné, on aborde beaucoup de sujets, on les traite peut-être pas assez en profondeur, ça on peut en discuter. Et en même temps, parfois j'ai trouvé que l'ensemble avait des ralentissements que je trouvais un peu longuet et en fait qui m'ont un peu perturbée parce que je m'attendais vraiment à un truc qui allait exploser dans tous les sens et finalement non, et c'est peut-être ça qui m'a un petit peu déçue.
Non, moi je suis d'accord avec ce que disait Ellie pour dire que c'est vraiment un film pop, mais rien que pour ça on peut quand même reconnaître le mérite du film. Enfin, c'est quand même assez rare de voir un film aussi survolté et oui, après qu'il nous emporte ou pas, là n'est peut-être pas là, enfin moi en tout cas ça a fonctionné pour moi et le rythme je le trouvais plutôt plutôt tenu jusqu'au bout. Effectivement, il y a des nuances de ton, mais c'est vrai, ce qu'on peut retenir, c'est que le côté pop se retrouve même dans les couleurs du film. Enfin, il ose la fumée rose. Enfin, on a quand même des images qui sont...
L'entrée du film. Oh, ouais. ce gros plan depuis la galaxie jusque sur le stade de foot, ce zoom, je veux dire, qui est quand même osé, quoi.
Non, il y a des trucs chouettes. Enfin, moi, je conseille d'aller voir ce film.
Alors moi j'aimerais qu'on parle un peu de ce héros quand même, un peu plus. Moi je l'ai trouvé très attachant, ce Diamantino, avec toute ce... Enfin, c'est moins de l'imbécilité que de la naïveté très profonde face à tout. Et,
la science l'explique d'ailleurs, c'est un enfant.
Voilà.
Et j'ai 10% de son cerveau.
Exactement. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant comme une espèce de personnage qui est à la fois complètement naïf, complètement puceau, complètement débordant de compassion, voilà, au point que ça touche les limites de l'univers quasiment. Hein, CF, cette image de même, lui, au milieu d'une galaxie, quoi. Et moi, ça m'a bien plu, ce personnage, franchement. Le film est porté par ça et par la performance de l'acteur. Et on finit par, je trouve, très vite ne plus penser au fait que c'est... une caricature de Ronaldo, etc. Enfin, c'est assez secondaire par rapport à tout ce que ce personnage incarne, y compris dans tout ce qui peut lui arriver. Pas de spoiler sur les protubérances qui lui arrivent sur le torse, mais qui ont leur importance dans le film.
Les kystes. Les fameux kystes.
On s'étonne presque qu'ils connaissent le mot kyste. Ça jurait un peu.
Ok, du coup, est-ce qu'on le conseille, ce film?
Ah oui.
Oui, on le conseille.
Alors c'est parti, ça s'appelle Diamantino et ça démarre avec de belles images roses avec des chiots qui galopent sur un terrain de foot. C'est à ne pas rater, c'est encore en salle actuellement. Coup de projecteur, c'est avec vous, Ellie et Mathilde. Je vous écoute.
À l'échelle d'une vie, comment j'envisage ce que je ferais, essayer, je sais pas, de laisser une trace, transmettre quelque chose, avoir un message à donner aux gens, dire ce que j'ai vécu, le réel, essayer de créer quelque chose. Quand je retrouvais mes parents, un visage souriant à la sortie d'école, ou quand j'arrivais à l'école, en fait quand j'arrivais dans un nouveau lieu, mais dans un lieu habituel régulièrement, retrouver... Oui, un très beau souvenir aussi, c'est quand j'ai retrouvé des souvenirs d'une colonie de vacances que j'avais passée, en revenant sur les lieux, et j'ai senti la présence de tous les autres qui certainement, enfin bien sûr, se souvenaient encore de moi, et je me souvenais d'eux, et toutes ces proximités dans les bâtiments de cette colonie de vacances, c'était en Bretagne. C'était un beau souvenir d'imagination et en même temps le rêve de reconstruire aussi quelque chose, un autre moment comme ça, parce que je trouvais que c'était un beau moment et le sentiment d'avoir réussi un moment de sa vie.
Savoir en vrai, parce que là je suis dans une relation dans laquelle je me suis engagée en me disant ouais, pourquoi pas, et finalement je suis tombée amoureuse encore plus que ce que je pensais, parce que tu te sens bien, mais de manière évidente. pense, j'ai envie de dire. Donc j'y pense pas trop quand j'y, tu vois, là, quand je prends un peu de recul et que je vois ma vie grand, je suis contente, ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis satisfaite.
Enfin, j'imagine surtout un avenir individuel et j'arrive pas trop à concevoir un avenir familial. C'est pas à ça que je pense quand je pense à l'avenir. Je pense plus à qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire dans ce que je fais maintenant et qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, même moi. Et la famille.
Je sais qu'une fois que j'ai. Une fois que je me suis recueilli, que j'ai prié, que j'ai pensé à mes proches, etc. Ben ensuite, je suis en paix, en fait. Enfin, et j'ai l'impression que je peux construire beaucoup plus de choses une fois que je suis en paix dans mon cœur, en fait.
Donc en sortant de la projection du dernier film de Claire Simon, Première Solitude, on s'est demandé comment parler du film autrement qu'en le décrivant, comment faire sentir son propos, son humeur, ses différents sujets, autrement qu'en paraphrasant ce qui est dit. Donc on s'est dit que la meilleure façon de vous en parler était de recréer sa démarche, quelque chose de son cinéma et du dispositif qui structure son film. Donc on a été demandé à quelques personnes de notre entourage de nous parler de leur avenir, de leur conception, de la vie, de l'amour, voilà, nous parler d'eux assez librement, à la manière de Claire Simon qui dans son dernier film enregistre des adolescents qui parlent et s'écoutent profondément, parler de leur, voilà, de leur projection, comment ils envisagent les choses, de leur rapport à la famille, beaucoup, à la solitude évidemment, mais pas que. Voilà.
Oui, et puis tout ça, on le retrouve en fait dans tous les films de Claire Simon, par exemple dans un qui est assez récent, qui est magnifique, qui s'appelle Le Bois, dont les rêves sont faits, qui met aussi en scène une série de rencontres, et à chaque fois, c'est l'individu qui est au centre, et l'individu vraiment comme considéré comme personne et regardé comme un personnage unique et singulier. Et c'est ce qu'elle explique elle-même. M6 avait fait un reportage sur le bois de Vincennes et elle avait dit que c'était du bon journalisme, mais c'était pas du vrai documentaire, c'était pas ce qu'elle appelle filmer un être là, un présent absolu, c'est-à-dire le fait simplement que des choses se déroulent ainsi et pas autrement. On trouve vraiment dans son cinéma une espèce de dénuement qui lui permet d'arriver très essentiellement à l'autre. On comprend que c'est une cinéaste qui dans ses films a réfléchi et mis en place une approche documentaire qui lui est propre, et même si les thèmes de ses films en fait varient, on peut suivre plusieurs fils conducteurs pour une petite traversée de son œuvre.
Tout d'abord, le lieu apparaît dans le cinéma de Claire Simon comme la matrice du récit. Donc le lieu est à la fois ce qui donne naissance au film, à ses envies de film. Elle part souvent du lieu lui-même et construit des histoires ensuite, même dans ses fictions. Et puis les lieux sont aussi ce qui structure et ce qui donne une cohérence à ses films. Donc on a par exemple le bois de Vincennes, un lycée, une cour de récréation. À chaque fois, c'est la gare du Nord à Paris. À chaque fois, ces films sont très très ancrés dans un lieu précis. Donc évidemment, on pourrait nous dire que tout film s'inscrit évidemment dans un espace donné, qu'il soit fictionnel ou documentaire, mais ici il y a vraiment quelque chose de très spécial et de très revendiqué. D'une part, on a toujours un cinéma qui se base sur des lieux très très unifiés, qu'on arpente en tant que lieu spécifique, presque clos, comme des microcosmes ou des petits mondes. Donc on a un petit bois, un petit lycée, une récréation, comme je l'ai déjà dit, mais vraiment des lieux très spécifiques et reconnus comme tels. Le deuxième point qui fait la spécificité de l'esthétique spatiale finalement de Claire Simon, c'est que le film ne pourrait franchement pas exister ailleurs que ce lieu-là qui donne naissance au film. On pourrait penser que Claire Simon épuise les lieux, mais pas à la manière de Pérec, où elle montrerait tout ce qui fait le propre du lieu de façon un peu obsessionnelle, mais elle presse le lieu pour en faire sortir ce qui serait l'esprit ou l'âme, en interrogeant ses habitants. Tout ce rapport au lieu détermine un rapport au temps particulier. En fait, le là, l'ici et maintenant est très très présent. On a toute cette impression de je me trouve là à cet instant, et c'est autour de ça et de cette idée que le temps s'articule. On sait que le temps change, qu'il a changé, mais cette idée du passé ou d'avenir est articulée autour du présent fort du lieu. Et si on sent que les saisons passent dans plusieurs de ces films, c'est pour toujours mieux comprendre ce qui fait le présent du lieu.
Oui, et puis on l'a vu, ces lieux, ils sont pas vides, ils sont remplis de personnages et de rencontres vis-à-vis desquels elle aborde un geste de cinéma qui lui est propre. Donc ce serait le deuxième fil conducteur pour traverser son œuvre. Les films de Claire Simon ne sont pas des messages, et ils ne portent pas de messages, ce sont des gestes au sens vraiment corporel de manipulation de la caméra, le fait de prendre place dans un lieu particulier, et puis gestes au sens plus général de type d'action dans le monde vers les autres, un investissement dans le réel. Elle met en place des dispositifs vraiment radicaux et ça passe à la fois par un certain effacement de sa part, on sent relativement peu sa présence dans les documentaires, mais aussi par une patience, on sent le temps nécessaire à la rencontre et l'investissement de la cinéaste dans ces rencontres-là. Donc on le comprend, c'est un geste de cinéma qui s'articule autour de la rencontre, et c'est le point de départ par exemple du film qui sort en ce moment, Première Solitude. C'est à partir d'un atelier de pratique avec des élèves de première d'un lycée d'Ivry-sur-Seine que le film est né. Ces élèves étaient réunis dans une option de cinéma, mais ils ne se connaissaient pas vraiment, et pas tant que ça en dehors des cours. Donc l'idée, ça a été de faire un film sur leur rencontre, d'organiser leur rencontre en petits groupes. C'est une idée et un geste de cinéma qui est vraiment très simple et en même temps très belle.
Voilà, donc peut-être le dernier pour essayer de rattraper le retard qu'on a pris, la dernière thématique à évoquer avant un petit montage qui nous parlera de la fiction dans le documentaire. On peut évoquer finalement ce qui fait le propre de Claire Simon et ce qui rend son cinéma absolument passionnant, c'est son côté joyeux à chaque fois dans ses films, un côté joyeux qui est amené par la description du désir humain, de nos aspirations, finalement d'une sorte d'espoir absolu contre la vision d'un documentaire souvent qui filme la souffrance et ce qui va pas dans le monde. Elle se situe plutôt du côté du désir de ce qu'elle filme sans les juger. C'est une manière pour elle peut-être sans doute d'être dévouée à ce qu'elle filme sans a priori, pour ce qu'elle filme vraiment, et en faisant l'effort d'aller vers l'autre. Même son dernier film, hein, qui n'est pas sombre, mais qui parle beaucoup, beaucoup de la solitude, puisque c'est son titre et c'est vraiment ce qui revient souvent dans les discours. Son dernier film s'ouvre quand même sur une sorte d'absolu, un constat presque amusé que d'autres partagent la même terre que nous, nos angoisses et l'assurance finalement d'occuper une place dans le monde. C'est un film magnifique qu'on conseille d'aller voir vraiment sincèrement. Donc peut-être annoncer un petit montage qu'on a fait sur ce qu'il y a de fictionnel et de fantasme dans l'espoir, et en quoi un cinéma qui représente cet espoir frise souvent la fiction, quoi. Donc je pense qu'on...
Je sais qui je veux devenir, mais je sais pas qui je vais être en fait.
L'intérieur de l'avenir.
Ouais.
Vous restez avec moi toujours. Parce que moi, je suis un coiffeur et je suis un papa. À vous, à toi et à toi.
Comment vous avez pris goût au cinéma?
C'était Les Demoiselles de Rochefort, et qui, je pense, restera le film de ma vie.
Elle est qui est dans une maison. Est-ce que tu veux que j'aille chercher des bâtons pour toi? Tu veux ou pas?
Oui! Va te débrouiller!
Je suis bien. Mon petit univers, mon petit paradis. C'est ici que je suis en communication avec tout ce qui est sain.
Et je me suis dit, mais je me vois que 10 ans plus tard, étant sur un plateau, en train de faire un projet, en train d'écrire.
Elle s'est précipitée, elle m'a rattrapée comme ça, elle m'a touchée. Et là, ça a été le déclic d'un désir plus fort que la raison.
Quelqu'un comme ça à l'école, ce serait vraiment formidable.
Mais évidemment,
ça serait un carnage.
Je joue sa vie.
J'ai peur pour lui.
Non, ce serait quoi la peur pour lui?
Elle me passait la main dans les cheveux, je me souviens. Et elle me disait, oh, j'adore tes cheveux, j'adore passer ma main dans tes cheveux, tu as les cheveux drus. Et pour moi, ça, c'était un truc qui me faisait fondre.
Quand on a fait le film, il y a 30 ans, j'avais pas de passeport, ni français, ni algérien.
Et non. Disons que j'avais pas de... C'était un peu compliqué parce que j'avais été appelé au service militaire en Algérie. Et j'avais pas voulu aller le faire. C'est pas tellement que j'avais pas eu envie de le faire, c'est quand j'ai quand même été en Algérie.
Ouais.
Et quand je suis arrivé, j'ai senti que je me suis senti étranger en Algérie, quoi.
Je me souviens, j'en étais amoureuse. Pendant des années, j'en ai été amoureuse.
Tout le monde a un iPhone, filme des petites choses de plus longues. Le cinéma est une façon de réfléchir aussi sur la vie, quoi. C'est une pensée en acte, le cinéma. Et donc, c'est un peu normal que tout le monde ait envie de penser la vie avec quelque chose qui a à voir avec comment est-ce qu'on retient le présent, comment est-ce qu'on le raconte.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce beau coup de projecteur sur une réalisatrice qu'on prend toujours plaisir à retrouver. On termine très très rapidement avec quelques conseils de sortie pour cette semaine. On sautera les bandes annonces et on commence donc avec Ma mère est folle de Diane Curis avec Fanny Ardant et Vianney. Oui, l'affiche est un petit peu bizarre. Alors, synopsis, sa mère est folle et je vous renvoie vers la bande annonce parce qu'on n'a plus de temps. L'événement qu'on vous conseille cette semaine, c'est dans le cadre des rendez-vous du documentaire du cinéma Lumière Bellecour. Ça sera le 11 à 18h40. C'est Au bord du monde de Klaus Drexel, un film documentaire donc qui se plonge dans Paris la nuit où vivent un certain nombre de sans-abri qui hantent trottoirs, ponts, couloirs de métro au bord d'un monde donc où la société ne les protège plus. Ils nous font face, ils nous parlent dans ce film beau, touchant qui sera donc projeté le 11 à 18h45 pour les rendez-vous du documentaire aux Lumières Bellecour. Et puis du côté des films du patrimoine à revoir, eh bien écoutez, quand on a Hitchcock à l'Institut Lumière, on peut difficilement faire autre chose que d'aller refaire un petit peu ces classiques hitchcockiens. Et cette semaine, c'est le moment où on a un petit enchaînement de trois des films muets d'Hitchcock, accompagnés au piano par Romain Camiello. Trois films assez particuliers dans sa filmographie, puisque le mercredi, vous pourrez voir, alors exactement dans l'ordre inverse, malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas, mais son tout premier film qui est une espèce de mélo, qui n'ont donc pas vraiment grand chose à voir avec ce qu'on connaît du cinéma d'Hitchcock. Un autre film, un des premiers films d'Hitchcock également, qui là est une espèce de comédie sentimentale aussi relativement éloignée des thèmes qu'on connaît Hitchcock, mais ça, c'est certainement très intéressant de voir justement la naissance de son cinéma là-dedans. Et puis mardi, donc la veille de ces deux projections, Chantage, la version muette de Chantage, puisque c'est le dernier film muet et le premier film parlant d'Hitchcock dont il a tourné deux versions, qui est donc à voir ou à revoir, des très grands films du cinéma hitchcockien. Et puis on termine comme d'habitude avec notre ami Flavien Poncet des Cinémas Lumière qui nous donne son conseil.
Le conseil d'aujourd'hui, c'est pour moi Leto, qui est un film russe, qui est le nouveau film de Kirill Serebrennikov. Alors quand je dis le nouveau film de Kirill Serebrennikov, on pourrait croire qu'il a la renommée d'un Andrei Zviagintsev. C'est pas tant ça, mais Kirill Serebrennikov, c'est vraiment un grand artiste en Russie en tout cas. C'est un grand metteur en scène qui s'est notamment fait connaître au théâtre, mais qui est également l'auteur d'un film qui était sorti il y a deux ans, qui était Le Disciple, qui était lui-même une adaptation de théâtre, mais qui portait sur l'extrémisme religieux de la jeunesse russe contemporaine. Et son nouveau film, donc Leto, porte sur un tout autre sujet. Leto, ça veut dire été en russe, et c'est l'histoire d'un véritable groupe de pop-rock soviétique des années 70 qui a véritablement existé. Donc c'est l'occasion de découvrir ce groupe-là, leur musique notamment, musique qui, de leur propre aveu, est beaucoup inspiré par celle de Led Zeppelin et de David Bowie. Voilà, c'est un film qui est riche d'une énergie folle, extrêmement communicative, qui, dans une toute autre mesure par rapport à Bohemian Rhapsody, nous donne envie de nous replonger dans la musique de ce groupe-là. Voilà, c'est un film russe comme on en voit très peu, qui porte un regard sur une jeunesse qui résiste à travers la musique et qui, bien que ça se passe dans les années 70, fait beaucoup écho à la jeunesse russe d'aujourd'hui, à la jeunesse européenne de façon générale et à la jeunesse internationale de façon plus générale encore, et comment la musique peut être un moyen de résistance pour cette jeunesse d'aujourd'hui.
Ok, soldier. I'm coming out. Ok, soldier. I got no gun and I'm coming out. Soldier.
Vous écoutiez D'étoiles plein les yeux, notre magazine de cinéma sur Transistor, avec cette semaine Élie Hirofast, Marie Lécuyer, Mathilde Grasset, Rémi Cerda avec en régie Maë Burla, qu'on remercie chaleureusement. Et à 22h04, nous rendons l'antenne avec une minute de retard en moins que ce qu'on avait pris. C'est somme toute assez raisonnable.
Congratulations.
Bonjour, c'est Zinedine Zidane et je lui souhaite un joyeux anniversaire.
Happy birthday.
fidèle auditeur en Australie.
Bonjour et joyeux anniversaire.
Voilà, c'était sur
Transistor.
Oui, c'était un des grands moments de l'histoire.